Chapitre 4, Métamorphose et folie. Dans la semaine qui suivit le Vendredi Saint, Charles Ward se montra davantage qu'à son habitude. Le plus souvent, on le voyait en train de déménager des livres entre le grenier et son ancien bureau. Son comportement était calme et rationnel, mais il arborait un regard furtif et inquiet que sa mère n'aima pas du tout. Son appétit était excellent et même féroce, si l'on en juge par ses exigences auprès de la cuisinière. Mis au courant des derniers événements, le docteur Willett ne tarda pas à venir, et le jeudi suivant, il eut une longue conversation avec le jeune homme dans le bureau où Joseph Curwen avait désormais abandonné sa surveillance. Comme à chaque fois, la discussion ne lui apprit rien. Mais Willett est convaincu que Charles était absolument sain d'esprit à ce moment-là. Il promit des révélations prochaines et réitéra son intention de déménager le laboratoire. Quant à la disparition du portrait, il n'en fit que peu de cas. Chose étrange si l'on se rappelle l'enthousiasme avec lequel il l'avait installé, et même, il sembla trouver une certaine ironie à la situation. Au cours de la deuxième semaine, Charles commença à s'absenter de la maison pendant de longues périodes. Un jour, alors que la vieille Anna venait faire le grand nettoyage de printemps, elle raconta qu'il visitait régulièrement la cave d'Olnécourt munie d'une grande valise et qu'il s'y livrait à d'étranges fouilles. Il se montrait d'ailleurs très généreux avec elle et son mari, mais semblait toujours anxieux, ce qui la chagrinait, elle qui l'avait vu grandir depuis sa naissance. Plusieurs amis de la famille rapportèrent également l'avoir aperçu à de nombreuses reprises du côté de Pawtuxet. Il hantait littéralement la station balnéaire de Rhodes sur Pawtuxet, et l'enquête du docteur Willett dans ce village montra que c'était toujours pour se rendre sur le rivage du fleuve avant de partir vers le nord, généralement pour de très longues promenades. Un matin, à la fin du mois de mai, les rituels bruyants reprirent dans le grenier, ce qui provoqua immédiatement une réprimande sévère de la part de M. Ward, à laquelle Charles répondit distraitement par de vagues promesses. Cela ressemblait en tout point à la conversation imaginaire du tristement fameux Vendredi Saint. Le jeune homme discutait âprement avec lui-même, et l'on entendit brusquement une série de cris dans des intonations différentes comme autant de demandes et de refus alternés. Madame Ward se précipita au grenier et écouta à la porte du laboratoire. Elle ne réussit à entendre distinctement qu'un morceau de phrase disant « Il faut le maintenir rouge pendant 3 mois ». Elle frappa à la porte et immédiatement la conversation imaginaire cessa. Quand son père interrogea Charles un peu plus tard, ce dernier répondit qu'il y avait certains conflits entre différentes sphères de conscience difficiles à éviter, mais qu'il s'arrangerait pour les transférer dans un autre plan. À la mi-juin, un curieux incident nocturne se produisit. Au début de la soirée, on entendit du bruit et des coups dans le grenier. Madame Ward était sur le point de monter quand tout redevint calme. Vers minuit, après que chacun s'était retiré, le majordome verrouillait la porte d'entrée lorsque Charles apparut soudain au bas de l'escalier portant une grande valise. Il avait un air incertain et maladroit et fit signe qu'il voulait sortir. Il ne dit pas un mot. Mais le digne serviteur remarqua immédiatement ses yeux fébriles et se mit subitement à trembler sans raison. Il ouvrit la porte et le jeune Ward sortit. Dès le lendemain, il donna ses 8 jours à Madame Ward. « Il y avait, lui dit-il, quelque chose de diabolique dans le regard que M. Charles lui avait jeté. Aucun jeune maître n'avait le droit de regarder ainsi un honnête serviteur et il ne passerait pas une nuit de plus dans cette maison. » Madame Ward l'autorisa à partir, mais ne prêta guère attention à ses élucubrations. Imaginer Charles dans un état de sauvage la nuit était complètement ridicule. Elle avait bien entendu quelques bruits provenant du grenier, mais c'était plutôt des soupirs de désespoir, peut-être même quelques sanglots. Il faut dire qu'elle était à présent habituée à toutes ces manifestations sonores. Le lendemain, dans la soirée, Charles Ward se saisit du journal, comme c'était déjà arrivé quelques mois auparavant, et égara une de ses pages. Personne n'y prêta réellement attention, jusqu'à ce que le docteur Willett commence ses investigations plus fouillées, à la recherche de détails apparemment insignifiants. Dans les archives du journal, il retrouva la page perdue par Charles, et nota 2 articles intéressants. Encore des profanations. Ce matin, Robert Hart, le veilleur du cimetière Nord, a de nouveau surpris des profanateurs en pleine action dans l'ancienne section du cimetière. La tombe d'Ezra Whedon, 1740-1824, a été ouverte et vidée. On pouvait encore lire les inscriptions sur la pierre, bien que celle-ci ait été sauvagement vandalisée. Quel qu'ait été son contenu après un siècle, il a été entièrement dérobé, à part quelques bouts de bois pourris. Il n'y avait aucune trace de roue, mais la police a relevé une série d'empreintes de pas faites avec des bottes de qualité. M. Hart a évidemment rapproché cet incident de celui du mois de mars, quand une bande de profanateurs motorisés avait été mise en fuite après avoir creusé une profonde excavation. Le sergent Riley du 2e district n'est pas de cet avis et relève une différence fondamentale entre ces deux affaires. En mars, on avait creusé à un endroit sans tombe, alors que cette fois c'est une sépulture clairement indiquée, intacte la veille, qui a été volontairement détruite et violée. La famille Whedon, avertie des faits, a exprimé sa surprise et sa tristesse. Elle ne voit pas qui aurait pu s'attaquer à la sépulture de son ancêtre. Hazard Whedon, qui demeure au 598 Angel Street, se souvient néanmoins d'une vieille légende familiale selon laquelle Ezra avait été impliqué, en tout honneur, tient-il à préciser, dans une affaire mystérieuse peu avant la Révolution. Mais il ne lui connaît évidemment aucun ennemi contemporain. L'inspecteur Cunningham a été chargé de l'affaire et espère trouver des indices rapidement. Concert de chiens à Pawtuxet. Les habitants de Pawtuxet ont été réveillés par une cacophonie d'aboiements ce matin vers 3 heures. Ils provenaient du rivage du fleuve, juste au nord de Rhodes sur Pawtuxet. Selon plusieurs témoignages, les hurlements ont été particulièrement inhabituels. Fred Lemdin, veilleur de nuit à Rhodes, déclare qu'il se mêlait au hurlement d'un homme terrifié et agonisant. Un petit orage qui a éclaté le long du rivage a mis fin au vacarme. On a également noté des odeurs déplaisantes provenant sans doute des réservoirs de pétrole le long de la baie. Elles sont probablement à l'origine de l'excitation des chiens. Charles avait maintenant l'air hagard d'un homme traqué, et rétrospectivement, ceux qui l'ont connu à cette époque s'accordent à dire qu'il aurait sans doute aimé parler si une terreur absolue ne l'avait retenu. Sa mère, qui l'espionnait la nuit, a reconnu qu'il sortait fréquemment, ce qui fit dire unanimement au psychiatre qu'il ne fallait pas chercher ailleurs le responsable des affaires de vampirisme rapportées par la presse à sensation, dont on n'a jamais arrêté le coupable. Ces affaires, suffisamment récentes et connues pour qu'on ne les expose à nouveau, avaient pour victimes des personnes de tous âges et de toutes conditions, originaire cependant de deux agglomérations distinctes. Le quartier résidentiel de la colline, près de la demeure d'Eward, et la banlieue proche de Pawtuxet, de l'autre côté de la ligne Cranston. Des noctambules et des résidents qui avaient l'habitude de dormir la fenêtre ouverte ont été attaqués, et ceux qui ont survécu racontent tous la même histoire, celle d'un monstre décharné, agile et bondissant, aux yeux flamboyants, qui plantait ses crocs à la gorge ou aux bras de ses victimes et se délectait de leur chair. Le docteur Willett, qui se refuse à dater le début de la démence de Charles aussi loin, reste très prudent pour expliquer ses atrocités. Il a, dit-il, sa théorie et se borne à répéter « Je ne peux dire qui ou quoi a perpétré ces meurtres, mais Charles Ward en est absolument innocent. » J'ai des raisons de croire qu'il ignore le goût du sang, comme le prouvent d'ailleurs son anémie croissante et sa pâleur. Ward a touché à des choses terribles, mais il a payé ses errements et n'a jamais été ni un monstre ni un criminel. Plus tard, les choses ont changé, mais j'aime à croire que le Charles que nous connaissons est mort avec ce changement. Son âme est partie, car cette enveloppe corporelle démente qui a disparu de l'hôpital White en contenait une autre. Willett parle avec autorité, s'étant si souvent rendu chez les Ward, notamment au chevet de Madame Ward dont les nerfs commençaient à craquer. Ces nuits de veille où elle guettait le moindre bruit avaient induit chez elle des hallucinations que le docteur raillait gentiment devant elle, mais qu'il faisait frémir en lui-même. Ces divagations étaient toujours en rapport avec ces bruits qu'elle croyait entendre au grenier aux heures les plus impossibles, à ces soupirs étouffés et à ces sanglots qu'elle imaginait. Au début de juillet, Willett prescrit à Madame Ward un séjour de convalescence à Atlantic City et recommanda bien à M. Ward et à son fils hagard et fuyant de ne lui écrire que des lettres réconfortantes. C'est probablement à cette fuite malgré elle qu'elle doit aujourd'hui la vie et l'équilibre mental.